Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire Portrait de femmes de notre matrimoine de tous les continents par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires 04. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous restons en Europe, nous sommes en Angleterre au XXe siècle et nous parlons de Virginia Woolf, une écrivaine britannique renommée. Elle est née à Londres en 1882, donc Virginia Stephen, S-T-E-P-H-E-N, est la fille de Leslie Stephen, grand bourgeois libéral érudit, et de Julia Jackson, veuve de Herbert Duke Worth, dont elle a eu deux fils, George et Gérald, et une fille, Stella. Virginia a en plus une sœur, Vanessa, un frère aîné, Toby, et un frère cadet, Adrian. La famille vit dans une belle demeure de Hyde Park Gate à Londres. Mais dès l'âge de 13 ans, à la mort de sa mère, puis dans un climat incestueux créé par ses deux demi-frères et surtout par son père, mais aussi à cause des deuils précoces et successifs, sa mère en 1895 à 49 ans, sa demi-sœur Stella 2 ans après, qui l'ont douloureusement, profondément marqué pour la vie, les repères du monde habituel menacent de lui échapper, de lui faire perdre pied. Son père, discrédité à ses yeux, acariâtre, tyrannique même après la mort de sa femme, mais aimé à la fois, mourra en 1904 à l'issue d'une longue agonie. Virginia a 22 ans et traverse alors une crise violente de dépression, décompensation nerveuse brutale d'une lourde souffrance due aux blessures de ce passé récent qui la traumatisera sa vie durant. Réfugiée chez une amie, Violette Dickinson, elle guérit au bout de 4 mois. Dans une pesante solitude, elle étudie seule, les universités étant interdites aux filles. Elle se révolte contre cette injustice et s'en plaint à son frère Toby, lui-même collégien. « Je n'ai personne pour discuter avec moi, et cela me manque. Rien d'étonnant si mon savoir est maigre. Les échanges, parler, sont essentiels en termes d'éducation, j'en suis sûre. » On a déjà vu chez des femmes des siècles précédents cette difficulté d'étudier due à l'absence de conseils, l'absence de guides. À partir de 1905, s'ouvre pour elle une belle période, celle de la création du groupe dit de Bloomsbury, du nom du quartier dans lequel elle emménage avec ses frères et sœurs, laissant derrière eux l'air si lourd de la maison de Hyde Park Gate. Et Bloomsbury est un groupe d'intellectuels brillants d'avant-garde, constitué des amis de son frère Toby, dont Leonard Woolf. Elle commence à écrire des essais descriptifs remarqués, des articles et des critiques dans les journaux, entre autres dans le Times littéraire. Mais en 1906, lors d'un voyage en Albanie et en Grèce, Toby tombe malade, rentre en Angleterre où, mal soigné, il meurt de la fièvre typhoïde à 25 ans. Nouveau cauchemar pour Virginia, 4e deuil, elle a 24 ans. De plus, sa sœur s'éloigne d'elle en épousant, 3 mois après, Clive Bell. Toby morte, Vanessa s'éloignant, Virginia se sent exclue, abandonnée. Aussi, lorsqu'en 1912, Leonard Woolf, désirant ardemment rentrer en Angleterre après plusieurs années d'exil dans les colonies aux Indes, à Ceylan, où, fonctionnaire zélé, il a ordonné nombre de pendaisons d'indigènes, entre guillemets, Leonard Woolf retrouve enchanté l'Angleterre, Virginia accueille favorablement sa demande en mariage. Il veut se réinsérer dans le milieu intellectuel anglais. Elle se dit déprimée parce qu'elle a, je cite, 29 ans, pas mariée, ratée, sans enfant, folle et pas un écrivain. Fin de citation. C'est ainsi qu'elle se voit. C'est un arrangement qui leur convient, où chacun apporte à l'autre le statut qui lui manquait. Pourtant, elle lui a écrit le 1er mai 1912, j'ouvre les guillemets, « Je ne vais pas considérer le mariage comme un métier. Je ne ressens aucune attirance physique envers vous. Si vous pouvez me laisser trouver ma propre voie, c'est ce qui me plairait le mieux. Nous voulons tous deux un mariage qui soit immensément vivant, plein de vitalité, toujours brûlant, sans rien de mort ni de facile, comme le sont la plupart des mariages. » De plus, il est juif et la bonne société britannique est foncièrement antisémite. Cela va de soi dans ce milieu et fait partie de la panoplie familiale de Virginia. Virginia qui dit qu'elle n'aime pas le physique des juifs. Mais Léonard est un juif exceptionnel. Elle l'appelle mon juif, athée comme elle. Et tout ceci ne les empêchera pas de former un couple véritable, fondé sur un attachement permanent et durable. En 1917, ils fondent ensemble leur propre maison d'édition, Hogarth Press, maison prospère qui publiera des auteurs célèbres, Catherine Mansfield, Freud, des romanciers français et russes. Grâce à sa correspondance prolifique, Virginia crée autour d'elle une communauté d'individus qui enrichissent sa vie affective et intellectuelle. Elle est l'égérie du groupe Bloomsbury. Son talent s'affirme entre 1921 et 1927. Elle se révèle brillante, souvent arrogante, irrésistible de drôlerie et d'esprit, mais aussi incertaine et tourmentée. Elle a de nombreuses amies écrivaines ou artistes, et d'abord sa sœur Vanessa, peintre accomplie. Elle s'attache à une femme en particulier, Vita Sackville-West, car contrairement à la réputation qui lui a été faite et par son mari et par son neveu Quentin Bell, qui a écrit une biographie d'elle, Virginia n'était pas froide ou frigide, mais ardente, son désir exalté par la longueur de la frustration imposée par Léonard, car c'est lui qui ressentait une répulsion à l'égard du corps des femmes. Il décide tout seul, contre l'avis du médecin traitant, que Virginia est trop fragile pour avoir des enfants. Ceci provoque chez elle une révolte, une nouvelle crise de désespoir, violente, hurlant sa haine à l'égard de son mari, ce qui accrédite pour son entourage l'idée que, décidément, entre guillemets, elle n'est pas normale. C'est à cause de lui et non d'elle qu'elle doit faire le deuil d'une vie amoureuse. Elle l'exprime ainsi. Vouloir et vouloir et ne pas avoir. Son mari, qui est aussi un mari aimant, fervent admirateur du génie de Virginia, le compagnon de tous les instants, le protecteur, qui ne l'empêche pas de penser, de travailler, d'écrire, mais qui règle sa vie dans tous les détails, règne sur elle. Il l'empêche de parler quand elle s'exalte trop en public, à son goût. Elle accepte cette situation et ne traversera plus de crise de cette sorte. Désormais liés, inséparables, ils mènent côte à côte une existence satisfaisante pour Virginia. En 1940, comme il est en tant que juif et socialiste sur la liste noire du Troisième Reich, et elle aussi en tant que son épouse, il proposera à Virginia de s'asphyxier ensemble au gaz si les nazis débarquent. À cette époque, Virginia déplore la prise de pouvoir d'Hitler en Allemagne en 1933. Sa conscience politique s'éveille et elle participera à des mouvements antifascistes. « Nous sommes juifs », affirme-t-elle à propos de son couple. En 1919, ils avaient acquis une maison de campagne, Monk's House, dans le Sussex, au sud de Londres, pas loin de Brighton, sur la Manche, face à Dieppe, sur la côte française. À la déclaration de la guerre, en 1939, ils s'y réfugient, mais se retrouvent seuls, coupés de leurs amis, dans un isolement fatal pour Virginia, à l'écart, sous les bombes nazies. Alors elle replonge dans le passé, revoit son père, un fantôme, et revit l'atmosphère lourde, les deuils de la maison familiale. Elle est seule, incomprise de sa sœur et de son mari, abandonnée. Elle refuse de manger, devient anorexique. Le 28 mars 1941, les poches remplies de lourdes pierres, ce qui montre sa détermination, elle prend le chemin qui mène à la rivière Ouse, O-U-S-E, à travers un paysage austère, très plat, sans charme, et va se noyer. Elle a 59 ans. Son œuvre, elle a publié en 26 ans des romans, des essais et de nombreuses nouvelles, des textes remarquables. En innovatrice, elle a rejeté les conceptions traditionnelles de l'intrigue romanesque et des personnages pour leur substituer la description d'impressions fugitives qui traversent l'esprit au cours d'une journée de vie. Est fascinée par la fragilité de l'instant qui passe, qu'elle essaie de capter par les mots. Ceci l'amène à repenser la forme même du roman. Par sa correspondance, elle nous démontre qu'écrire des lettres est un art. Épistolière infatigable, elle écrivait jusqu'à 6 missives par jour, passant du ton enjoué, spirituel, au ton mélancolique et anxieux. l'injustice faite aux femmes, le combat permanent que constitue le simple fait d'être une femme dans nos sociétés où, dit-elle, ce sont les valeurs masculines qui prédominent, apparaissent de manière récurrente dans toute l'œuvre de Virginia Woolf. Le thème de l'eau est aussi omniprésent. Cette eau fascinante qui imprègne toute son œuvre et dans laquelle elle ira se perdre. Écrivaine des plus brillantes du XXe siècle, révoltée, en souffrance, Virginia Woolf est une femme exceptionnelle de notre matrimoine universel. Donc, elle a écrit environ 36 romans, dont La traversée des apparences, le premier, Trois Guinées, et Une chambre à soi, le plus connu, où Virginia rappelle comment les femmes étaient placées sous la dépendance spirituelle et économique des hommes et nécessairement réduites au silence. Il manquait à celles qui étaient douées pour affirmer leur génie, de quoi vivre, du temps et une chambre à soi. Dans ce texte, toujours d'actualité, elle nous encourage. « Écrivez ce que vous désirez écrire. C'est tout ce qui importe, nous dit-elle. Nul ne peut prévoir si cela importera pendant des siècles ou pendant des jours. » On peut citer aussi « La fascination de l'étang », Orlando, Mrs. Dalloway, « La promenade au phare », « Les années », « Entre les actes » et son dernier texte, « La station balnéaire ». Et puis aussi une correspondance de près de 4000 lettres et un journal qui paraît après sa mort à l'initiative de son mari. Alors, les sources. Virginia Woolf, biographie de Viviane Forrester, édition Albin Michel, 2009. Lettres illustrées Virginia Woolf, choisie et commentée par Française Spalding, édition Herscher, 1993. Une chambre à soi de Virginia Woolf. Édition de Noël, 1992 et 1997 pour la traduction française. La fascination de l'étang, édition du Seuil, 1990. Une toute petite citation, la dernière, très courte. « Pensée est mon combat ».
Merci Jacqueline et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.